Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Assistez-nous, Dieu de notre salut, et pour l'honneur de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Mes très chers frères, depuis le début de cette seconde partie de l'année liturgique, nous avons vu bien des vérités propres à élever nos cœurs à Dieu et à les embraser de gratitude envers lui. Aujourd'hui, l'Église nous fait opérer une sorte de premier bilan de la vie chrétienne. Nous avons plusieurs choses à voir. Nous avons déjà vu que Dieu était notre protecteur. Nous avons vu l'importance de mettre notre confiance en lui. Dimanche dernier, nous avons vu que nous devions jeter nos fardeaux sur le Seigneur afin qu'il prenne le soin lui-même de nous. Et aujourd'hui, c'est comme si l'Église nous disait: avez-vous mis en pratique les enseignements de ces trois premiers dimanches? Et c'est pour cela que nous avons commencé par ces paroles du graduel: assistez-nous, Dieu de notre salut, pour l'honneur de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Nous avons plusieurs choses à examiner dans ce sermon, qui ne sont pas des petites choses. Premièrement, dans le premier point, nous allons nous poser la question: quel est l'enjeu de la vie chrétienne? Et nous verrons que même ça qui nous paraît évident n'est pas aussi évident que nous pourrions l'imaginer. Quel est l'enjeu de la vie chrétienne? Nous nous poserons ensuite la question de ce que signifie vivre pour la gloire de Dieu. Nous en avons beaucoup parlé, mais il nous faut toujours être en train de raviver la mémoire de cette définition, parce que c'est quelque chose qui est, c'est en quelque sorte une expression qui est aussi commune que son sens est aussi obscur parmi les chrétiens. Et nous verrons quelques fausses conceptions de cette vie à la gloire de Dieu. Ensuite, dans un deuxième point, nous avancerons un petit peu et nous verrons une vérité qui est relativement méconnue. Une vérité qui est relativement méconnue, et je pense que peut-être que plusieurs d'entre vous, mes très chers frères, apprendront quelque chose aujourd'hui. Non pas quelque chose de nouveau par rapport au dogme, mais quelque chose de peut-être plus éclairant par rapport au sens de la vie chrétienne. Donc nous verrons en deuxième point une vérité inconnue, relativement méconnue. Nous verrons ce que l'on pourrait appeler le rôle cosmologique du chrétien. Ça peut sembler être un peu ronflant comme expression, mais nous verrons, c'est très important. Et puis nous verrons aussi comment les ennemis de Dieu sont les nôtres, comment ils sont devenus les nôtres par le baptême. Et en troisième point, dans un troisième point, nous poserons la question: comment remplir notre rôle? Et ce qui nous amènera à quelques considérations pratiques, comme d'habitude, avec l'aide de Dieu. Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Assistez-nous, Dieu de notre salut, et pour l'honneur de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Vous trouverez ce verset dans la deuxième partie du graduel, qui est tiré du psaume 78. Assistez-nous, Seigneur, Dieu de notre salut, et pour l'honneur de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Dieu nous a créés pour lui. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Dieu ne nous a pas créés pour que nous fassions l'expérience de l'existence, et comme l'horloger de Voltaire ou le dieu d'Aristote, il s'est désintéressé de sa création, si tant est qu'il nous ait créés, puisque de cet horloger indifférent à un monde éternel, il n'y a qu'un pas, et on peut se dire, mais après tout, Dieu ne s'intéresse pas à nous, tout simplement parce que le monde est éternel. Ce n'est pas la perspective chrétienne. Dieu nous a créés, nous dit l'Écriture, Dieu nous a créés pour lui. Et a fortiori, s'il nous a recréés, c'est pour que nous soyons encore plus à lui, sachant qu'il nous a créés pour lui et nous nous sommes détournés de lui par le péché originel, par la faute de nos premiers parents, et il nous a recréés dans le Christ, mais il ne nous a pas recréés dans un autre but que le premier but, sauf qu'il, en quelque sorte, nous a donné plus de grâce pour que nous remplissions, que nous atteignions le premier but qu'il nous avait posé dans sa providence et dans sa volonté, comme but, comme raison de notre existence. Donc, Dieu nous a créés pour lui. L'enjeu, voyez-vous, mes très chers frères, l'enjeu de la vie chrétienne n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, et si on le pensait, ça serait déjà pas mal, mais l'enjeu, Nous devons le dire, l'enjeu de la vie chrétienne n'est pas fondamentalement le salut de l'homme. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que l'enjeu de la vie chrétienne? L'enjeu de la vie chrétienne n'est pas fondamentalement le salut de l'homme, mais la gloire de Dieu. C'est une chose très importante. Évidemment, il y a énormément de chrétiens qui ne se rendent même pas compte que l'enjeu de la vie chrétienne, c'est leur salut, leur vie éternelle, leur destinée éternelle. Et donc, si on leur parle de la gloire de Dieu, ça leur semble encore leur passer encore plus au-dessus de leur tête. C'est évident. Mais je parle quand même à des chrétiens affermis, des chrétiens, des vrais chrétiens. Et à ces chrétiens-là, je leur dis, prenez garde, car il peut y avoir un effet pervers à cette idée que l'enjeu de la vie chrétienne, c'est le salut. Et si, tout d'un coup, le salut ne m'intéressait plus? Du coup, la vie chrétienne perdrait son enjeu. Et si il se trouve que, d'une certaine manière, je trouvais un autre, par impossible, mais je trouvais un autre Dieu qui me proposerait un autre enjeu pour ma vie. Du coup, je changerais l'enjeu de la vie chrétienne, je changerais de vie et l'enjeu de la vie chrétienne me tomberait à l'eau. Évidemment, il est impossible de trouver un autre Dieu qui nous trouverait, qui nous proposerait un autre sens à notre vie, et c'est une folie que de refuser de se sauver, puisque c'est une impossibilité dans la nature. La nature est inscrite dans une loi de la nature créée, c'est le désir de sa propre conservation. Donc ne pas désirer le salut. Alors il y a des gens qui disent, moi je me manque éperdument, mais ce n'est pas qu'ils le pensent sérieusement, c'est qu'ils n'y ont jamais vraiment pensé, ou qu'ils n'y ont jamais pensé comme il le faut à leur salut. Et donc pour eux, le salut, ou bien c'est quelque chose d'abstrait qui n'a aucun intérêt par rapport aux choses concrètes qu'ils peuvent, les plaisirs concrets qu'ils peuvent avoir dans une vie, la vie mondaine, ou alors c'est quelque chose dont ils ne comprennent pas l'importance pour eux, parce qu'ils n'ont pas réfléchi à l'amour de Dieu pour eux. Et si l'on peut dire, avant cela, ils n'ont pas réfléchi au sérieux de l'éternité des peines de l'enfer. Mais ce n'est pas exactement notre but ici de parler de cela. Nous voulons dire que l'enjeu de la vie chrétienne n'est pas fondamentalement le salut de l'homme, mais la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas convertis, nous ne sommes pas régénérés par le baptême pour nous occuper de notre salut. Il se trouve que nous avons été créés et recréés, comme dit la liturgie, pour contribuer à la gloire de Dieu, sachant que si nous y contribuons de la manière que Dieu veut, alors ce sera notre salut. Donc évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, un des enjeux de la vie chrétienne, c'est notre salut, bien sûr, et c'est même du point de vue individuel, c'est du point de vue personnel, c'est la chose la plus fondamentale. Néanmoins, faisons attention. Nous pourrions nous dire, après tout, ça ne m'intéresse plus, donc l'enjeu a disparu. Même si, en tant que baptisés, nous ne nous intéressions plus à notre salut, ça ne veut pas dire que nous serions dispensés de vivre à la gloire de Dieu. Nous devons d'abord vivre à la gloire de Dieu, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par surcroît, le salut. Les deux vont de pair. On ne peut pas, de même qu'on ne peut pas travailler à son salut sans vivre à la gloire de Dieu, de même, on ne peut pas vivre à la gloire de Dieu sans que cela constitue l'œuvre de notre sanctification, donc de notre salut. Le salut, qu'est-ce que c'est, mes très chers frères? Eh bien, nous pourrions dire que le salut, c'est la récompense d'une vie qui a glorifié Dieu. Et sous cet angle-là, vous allez voir, il suffit de faire une toute petite démonstration, vous allez voir que d'une certaine manière, d'une manière très certaine, si j'ose dire, cela donne au labeur chrétien de notre sanctification tout un autre aspect, une autre lumière. Lorsque je pense que le salut consiste dans l'accession à la vie éternelle, ce qui est vrai, et que pour accéder à la vie éternelle, il faut s'être maintenu tant bien que mal en état de grâce, en tout cas, il faut être mort en état de grâce, eh bien, je suis en deçà de la définition chrétienne, définition catholique de la vie chrétienne et de l'opération du travail de notre salut. Vous voyez, c'est un petit peu comme si un employé ou des employés dans une entreprise qui produisait, je ne sais pas, quelque chose, des biens, etc., disait l'essentiel de notre travail, c'est de ne pas avoir l'air de flâner et de paresser quand le patron monte son nez. Évidemment, si quelqu'un, lorsque le patron arrive, a l'air de perdre son temps, il va se faire réprimander. Mais est-ce que le but, l'essence de leur travail, à ces gens-là, ils produisent, je ne sais pas, des boîtes de conserve, que c'est n'importe quoi, des meubles, est-ce que l'essence de leur travail, c'est de ne pas se faire prendre en flagrant délit de paresse? Non, l'essence de leur travail, c'est de, mettons des menuisiers, c'est de produire des meubles, de produire de très beaux meubles pour en tirer un revenu substantiel, et aussi pour l'amour de leur art, puisque celui qui a construit un beau meuble est d'abord content qu'on loue son travail, et ensuite il est content aussi d'en tirer un bon prix. Donc vous voyez, si on disait le but de l'atelier de tous les membres de l'atelier de menuiserie est de ne pas se faire piquer en flagrant délit de paresse, je ne dirais même pas qu'on est en deçà de la définition de leur métier, je dirais qu'on se moque du métier lui-même. De même, il en va de même pour la vie chrétienne. Lorsqu'on s'imagine, mes très chers frères, que la vie chrétienne consiste à se maintenir tant bien que mal en état grâce et à être trouvé par Dieu au dernier instant de notre vie, en état de grâce, eh bien, on se moque de Dieu. Le salut n'est autre que la récompense d'une vie qui a glorifié Dieu. Alors évidemment, on peut se dire, oui, mais si, je n'ai jamais eu l'occasion de glorifier Dieu. Attendez, nous allons y venir, et puis vous savez très bien que c'est un faux fuyant, puisque vous essayez de contourner cette définition que nous avons donnée. Le salut, ce n'est pas le fait de sauter dans le train au moment où le train s'ébranle et quitte le quai, c'est la récompense d'une vie qui a glorifié Dieu. Il ne faut pas donc, mes très chers frères, se reposer sur l'espérance d'une conversion tardive. Aujourd'hui, je suis mondain, je fais n'importe quoi, mais comme je garde quand même un certain lien et un certain respect avec la religion, je compte bien que vers la fin de ma vie, je m'amenderai, ou en tout cas, je fréquenterai plus les sacrements et je serai plus sérieux, disons. Parce que de toute façon, les sacrements, tout le monde les fréquente aujourd'hui, c'est très facile d'accéder aux sacrements. En tout cas, je les fréquenterai d'une façon plus sérieuse. Ne comptons pas sur cela, mes très chers frères. Ne comptons pas sur l'espérance d'une conversion tardive. Celui qui escompte pour lui-même une conversion tardive ne se convertira jamais. Les conversions tardives, alors vous allez dire, ça n'existe pas. Ça existe. Ça existe pour ceux qui ne se seront jamais posé la question et qui ne la mériteront pas. Le plus grand des bandits qui aura passé sa vie à trucider son prochain et qui se sera moqué de Dieu, Dieu peut-être lui donnera la grâce de la conversion finale. Pourquoi? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Mais le mauvais chrétien, le chrétien tiède, qui escomptera sur une conversion finale pour, en quelque sorte, bien se préparer à sortir de la vie, il s'apercevra, eh bien, qu'il n'y a rien de plus difficile que de se convertir quand on est vieux. Parce que toutes les habitudes sont ancrées, les jeux sont faits en quelque sorte, il n'y a plus qu'à attendre le résultat de tout ce que nous avons fait. Ne nous reposons pas non plus, mes très chers frères, sur les derniers sacrements. Alors vous allez dire, attendez, faites attention, les derniers sacrements, l'extrême onction a été donnée pour justement que, eh bien, les moribonds puissent être arrachés aux griffes du démon et être projetés dans le ciel. Ce n'est pas totalement faux, mais c'est très mal dit. Voyez-vous, la pratique, même la pratique encore aujourd'hui, chez beaucoup de gens, enfin, chez beaucoup de gens, chez ceux qui ont encore accès au dernier sacrement, c'est de se faire pourvoir les derniers sacrements quand on a perdu conscience. Ou les familles attendent que les personnes mourantes soient déjà un pas dans la tombe pour leur faire administrer les derniers sacrements. Et moyennant cela, la personne ne revient pas à elle, elle meurt, oh ouf, la personne est au ciel. Ce n'est pas aussi évident que cela, mes très chers frères. Si on a pu se faire administrer les sacrements quand on était encore en capacité de se les faire administrer et qu'on ne l'a pas fait, je ne sais pas exactement quelle peut être l'efficace de ces derniers sacrements. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une efficace, Dieu seul sait. Mais justement, personne ne sait. Personne d'autre que Dieu le sait. Les derniers sacrements s'accompagnent, si vous regardez, enfin si les prêtres le sauront, les clercs le savent, s'accompagnent de beaucoup de choses qui ne font pas absolument, à strictement parler, partie de l'extrême onction, Mais vous savez très bien qu'avant l'extrême onction, il y a la communion, et avant la communion, il y a bien sûr la confession. Donc, il faut se souvenir qu'il faut avoir une idée objective de soi-même et de sa maladie, et quand la maladie est suffisamment grave pour nous laisser entendre que probablement c'est une maladie qui mène à la mort, peut-être que nous guérirons entre-temps, ce n'est pas impossible, d'ailleurs ça peut être un effet de l'extrême onction, d'ailleurs. Mais il se trouve que si nous nous disons, là vraiment il y a quelque chose de dangereux, il faut nous dire, eh bien, si le médecin m'a dit, j'en ai plus, j'en ai encore pour un mois, eh bien il faut que, dès maintenant, je reçoive les derniers sacrements, quitte à les recevoir encore une fois ou encore plusieurs fois quand j'irai vraiment mal et quand je serai devenu inconscient. De telle sorte que je me présente à Dieu muni des sacrements que j'aurais demandé et que j'aurais désiré. Alors évidemment, lorsque nous avons des gens qui sont mourants, qui sont très mécréants, souvent nous attendons qu'ils soient inconscients pour leur faire administrer les sacrements parce que nous savons très bien qu'ils les auraient refusés. C'est une charité, effectivement, que de faire administrer les sacrements à un mécréant qui n'est plus en mesure de les refuser. Mais comme il les aurait refusés, on ne peut pas, avec une trop grande facilité, présumer qu'il ne se serait pas opposé à la réception de ces sacrements s'il avait pris conscience de leur nécessité, etc. Il a eu un temps assez long pour comprendre que c'était une nécessité. Il est devenu inconscient, il est tombé dans l'inconscience, dans le coma, si vous voulez, en restant sur ses positions. Dieu est bon, Dieu est grand, et les sacrements sont efficaces. Mais n'escomptons pas, mes très chers frères, pour nous, les derniers sacrements, n'escomptons pas non plus, d'une façon générale, une grâce que nous n'aurons pas mérité. Alors vous allez dire, vous parlez comme un pélagien tout d'un coup. Personne ne mérite la grâce. Il y a une façon, effectivement, mes très chers Augustiniens, il y a une façon d'imaginer que l'on peut mériter la grâce, et puis il y a une façon de démériter de la grâce. Une grâce qui nous est donnée, la grâce de recevoir dans toutes les règles de l'art, si l'on peut dire, les derniers sacrements, nous est donnée par Dieu, d'une façon imméritée, mais cette grâce, nous l'avons méritée parce que nous avons bien usé des grâces précédemment reçues. Lorsque nous n'usons pas de ces grâces, eh bien, mes très chers frères, nous ne méritons pas ces grâces, si l'on peut dire, très imméritées, qui viennent suppléer et même, notre faiblesse à la fin. Donc voyez, mes très chers frères, l'enjeu de la vie chrétienne n'est pas fondamentalement notre salut, mais la glorification de Dieu. Bien sûr qu'on peut être sauvé après une vie qui n'aura pas glorifié Dieu. Bien entendu, Dieu est merveilleusement bon et il accorde le salut à qui il veut. Nous ne disons pas que c'est un dû, que Dieu ne nous paiera le salaire que dans la mesure où nous aurons travaillé pendant les 11 heures, pendant les 12 heures du jour. Nous disons simplement que, à nous qui écoutons ce sermon, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes dans la vie chrétienne, nous qui sommes des chrétiens normaux, des chrétiens vivants, des chrétiens, des vrais chrétiens, nous ne pouvons pas compter sur quelque chose d'extraordinaire, une intervention extraordinaire de Dieu, dans la mesure où nous n'aurons pas fait tous nos efforts pour mettre à profit les grâces que nous recevons actuellement. Nous savons qu'il y a un triple ennemi, il y a le triple ennemi de notre salut qui est le diable, la chair et le monde et la chair. Eh bien, mes très chers frères, le triple ennemi de notre salut, nous devons comprendre, nous ne comprenons réellement que pourquoi nous devons le combattre fondamentalement, que dans la mesure où nous comprenons qu'il s'oppose fondamentalement à la glorification de Dieu dans le monde. Le triple ennemi de notre salut est fondamentalement le triple ennemi de Dieu avant d'être le nôtre. Le diable est jaloux de nous. Il est aussi jaloux de Dieu. Il a voulu, il était jaloux de la création que Dieu avait faite, il était jaloux du paradis terrestre, il était jaloux de nos premiers parents. Il a réussi à semer la zizanie jusque dans le paradis terrestre. Et ensuite, il est jaloux de nous à cause du sacrifice du Christ qui nous rend l'accès au ciel. Le monde, qu'est-ce que c'est? Le monde, c'est le théâtre de la volonté propre. Le monde, qu'est-ce que c'est? Le monde, si la chair n'existait pas, le monde n'existerait pas. Il n'y aurait que la création de Dieu. Mais comme me dit le grand Bossuet, le monde est une sorte de surimposition par la concupiscence sur le monde créé par Dieu. De telle sorte que le monde tel que Dieu l'a créé est une chose qui est bonne, puisque elle est créée par Dieu, mais le monde tel que nous l'employons, tel que nous le concevons par l'effet de notre triple concupiscence, est devenu quelque chose de mauvais, est quelque chose de mauvais, quelque chose avec lequel, dit Bossuet, Dieu ne veut rien avoir à faire. Le monde est donc le théâtre de la volonté propre. Tandis que la chair, qu'est-ce que c'est la chair au sens de le vieil homme? La chair, c'est cette puissance centrifuge qui est en nous et qui nous fait fuir Dieu, non pas comme si nous avions peur de Dieu. Ça, fuir Dieu, avoir peur de Dieu, c'est une sottise. Quand on y pense, on peut avoir peur de Dieu 2 minutes, mais après on s'aperçoit que c'est un Dieu très bon. Non, ça nous fait fuir Dieu sous l'effet de notre amour propre. C'est-à-dire que nous nous aimons nous-mêmes tellement que nous nous écartons de Dieu pour pouvoir jouir de nous-mêmes, sachant que la perspective d'aimer Dieu nous semble une perspective qui est une activité qui est au détriment de l'amour de nous-mêmes. Et c'est une réalité, en réalité. Donc, vous voyez, mes très chers frères, c'est contre nous-mêmes que nous devons demander à Dieu de nous délivrer. C'est contre ce triple ennemi que nous devons demander à Dieu de nous délivrer. C'est pour cela que dans le même graduel, nous disons « Délivrez-nous, c'est pour l'honneur de votre nom, Seigneur, délivrez-nous. Délivrez-nous pour l'honneur de votre nom. » La raison de ce cri, quel est-il? Le cri « Délivrez-nous, Seigneur, délivrez-nous de la triple concupiscence qui est l'ennemi la triple concupiscence qui est le triple ennemi qui correspond donc le monde, le diable, le monde et la chair. Délivrez-nous-en. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pour que nous soyons sauvés. Eh bien non, c'est pour l'honneur de votre nom. Et propter honorem dominis tui. Voilà la raison objective pour laquelle nous demandons à Dieu d'être délivré du triple ennemi et de la triple concupiscence. Pour l'honneur de son nom. C'est la raison de notre demande. Le nom de Dieu, révélé dans la création, est toujours au risque d'être ridiculisé et moqué. C'est le triomphe du créé, c'est pour cela qu'il est dit dans un autre psaume, « Non prevaleat homo », que l'homme, c'est-à-dire que l'humain, que le mortel, ne prévale pas. Dieu, dans la mesure où il s'est révélé, il a révélé son nom, est toujours au risque d'être ridiculisé et moqué. C'est le triomphe du créé contre le créateur, le centre et la fin de toute chose. Notre vie chrétienne doit donc être illuminée, centrée sur la notion de l'honneur de Dieu. Évidemment, je m'empresse de réfuter de signaler quelques fausses idées sur l'honneur de Dieu. Évidemment, il y a une façon fausse d'envisager l'honneur de Dieu et de combattre pour l'honneur de Dieu, c'est quand on envisage l'honneur de Dieu indépendamment de nous. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez, je prends un cas caricatural qui n'existe pas, mais par exemple, on est en pleine messe, c'est le canon de la messe, tout est silencieux, parce que pendant le canon de la messe, on doit avoir un silence absolu, tout est silencieux. Et puis, il y a, par exemple, quelqu'un qui fait du bruit, je ne sais pas, un petit enfant qui se met à babiller, que sais-je, comme ça peut arriver, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, donc ce n'est pas, l'amener à faire silence, mais en paisiblement, sans penser que c'est fait exprès. Donc, imaginez que c'est le canon de la messe, quelqu'un, voulant honorer ce moment très solennel, se tourne et d'une façon furieuse se tourne vers les parents de ce petit bébé et leur hurle « Mais vous ne pouvez pas faire taire votre gamin, etc. Vous voyez pas que on est en plein au cœur du canon. » Vous voyez, mes très chers frères, il y a une manière de prendre à cœur l'honneur de Dieu qui déshonore Dieu. Évidemment, cette personne manque à la charité, manque au tact, manque aussi à l'honneur que l'on doit au Saint-Sacrement, parce que les babillements d'un petit bébé pendant le canon ne sont en aucun cas offensants pour la solennité de la chose. Évidemment, si c'était un adulte qui se mettait à papoter avec son prochain, etc., bon, ça serait autre chose. Il faudrait d'ailleurs leur dire doucement de se taire et de respecter ce qui... C'est pour cela que, en général... Il y a plusieurs catégories de clercs qui étaient, en tout cas dans l'Église primitive, qui étaient apostés à cela pour faire la police dans l'Église. Et c'était pour cela qu'il y avait l'ordre en particulier de portier. Donc il se trouve, mes très chers frères, vous voyez que on peut s'identifier en quelque sorte, identifier sa vie à l'honneur, à la défense de l'honneur de Dieu, tout en étant un des acteurs de la profanation du nom de Dieu. Je ne parlerai pas à nouveau, bien entendu, des militants qui sont là en train de distribuer des claques, des gifles, etc. à tout le monde, sous prétexte de défendre l'honneur de Dieu, l'honneur de la religion, alors qu'ils le couvrent de ridicule et qu'ils le couvrent de discrédit. Mais vous le savez, mes très chers frères, donc je ne vais pas parler de cela aujourd'hui. Il y a donc des fausses idées de l'honneur de Dieu, c'est quand on envisage l'honneur de Dieu indépendamment de nous. Nous devons comprendre que Dieu est honoré dans la mesure où nous l'honorons. Alors vous allez dire, oui, mais tous ces gens qui le déshonorent. Dieu est honoré dans la mesure où nous l'honorons. Nous, ses enfants, nous l'honorons. Dieu est ridiculisé, c'est-à-dire, pour parler exactement comme l'Écriture, blasphémé, le nom de Dieu est blasphémé, quant ceux qui connaissent son nom se montrent indignes de lui. Ce n'est pas les gouvernements iniques qui déshonore le nom de Dieu. Ce n'est pas les gouvernements ou les individus persécuteurs qui déshonorent le nom de Dieu. Ce n'est même pas, à strictement parler, tel ou tel journal qui blasphème, qui fait des caricatures ignobles de notre Seigneur, de la Très Sainte Vierge, etc. Ce n'est pas, à strictement parler, ce sont des blasphèmes, bien entendu, qui doivent être traités comme tels. Mais si l'on peut dire, ce sont des blasphèmes au second degré. Alors vous allez dire, alors qu'est-ce que c'est le premier degré? Eh, justement, faire des caricatures ignobles de Notre-Dame, faire des caricatures ignobles de notre Seigneur, blasphémer, dire des choses grossières sur la religion, c'est une deuxième catégorie de blasphème. La première catégorie de blasphème, c'est quand notre indignité en tant que chrétien mène les gens à mépriser Dieu, notre Père, notre Maître, notre Seigneur, notre Souverain. Ça, c'est un blasphème auquel on ne pense pas souvent. Vous voyez, il y a des gens qui disent des choses ignobles sur la religion et ils blasphèment. Il y a des gens qui se comportent mal en tant que chrétiens et les gens du monde disent, eh bien, c'est ça les chrétiens, c'est ça le Dieu des chrétiens, c'est ça la religion chrétienne, ces gens-là, parce qu'on a blasphémé, on a méprisé le nom de Dieu à cause d'eux, ces gens-là commettent un plus grand blasphème. C'est un plus grand blasphème que de se montrer indigne de la religion, que lorsqu'on est mondain, de déblatérer contre la religion. Je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que c'est plus important, c'est plus grave, le chrétien, le blasphème qui est lié à l'indignité du chrétien. Nous devons comprendre, mes très chers frères, que lorsque nous demandons à Dieu de nous délivrer de la tribulation, la tribulation, mes très chers frères, ce n'est autre que les attaques répétées et perpétuelles de notre triple concupiscence. Dans le verset alléluiatique, il est dit, le Seigneur, soyez le refuge des opprimés dans les moments d'angoisse. Esto refugium pauperum in tribulatione. La tribulation, ce n'est pas tellement quand on nous accable en tant que chrétien. C'est une tribulation, bien entendu, mais bienheureux sommes-nous lorsqu'on dira toutes sortes de choses fausses sur nous, lorsque l'on nous persécutera, lorsqu'on nous tuera, etc. On nous fera souffrir. Bienheureux serons-nous. C'est une tribulation, c'est vrai, mais ce n'est pas la tribulation dont on parle ici. La tribulation, c'est quand on est attaqué à l'intérieur par la triple concupiscence qui essaye de nous faire nous comporter d'une manière indigne de notre Dieu, de telle sorte que le nom de Dieu soit blasphémé. Et c'est dans cette tribulation que Dieu est le refuge des pauvres en esprit, c'est-à-dire de ceux qui se défient d'eux-mêmes, comme nous l'avons dit la dernière fois. Dieu est au ciel et sur la terre. Notre obéissance doit être le reflet de l'ordonnation du ciel à la majesté divine. Selon ce que nous disons tous les jours dans le Pater, sicuti in cielo et in terra. Que votre volonté soit faite, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tant que quelque chose résiste à Dieu, le monde blasphème. Or, le champ de la bataille entre le monde et Dieu, c'est l'âme des rachetés. C'est pour cela, mes très chers frères, nous passons à notre second point, notre deuxième point, c'est pour cela que nous avons parlé du rôle cosmologique du chrétien. Nous venons de dire que les blasphèmes faits par les mondains sont sous un certain rapport, du point de vue de la nocivité vis-à-vis de Dieu, sont sous un certain rapport bien moindres que les blasphèmes dus aux chrétiens. Je ne parle même pas des chrétiens qui blasphèment, parce qu'un chrétien ne blasphème pas, mais des blasphèmes induits par l'indignité du comportement des chrétiens. Quand deux nations se font la guerre, mes très chers frères, est-ce qu'elles distribuent des armes à tous les citoyens, de telle sorte que tous les citoyens armés se présentent face à tous les autres citoyens d'un autre État armé et qu'il y ait une conflagration générale? Non, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Que font les nations lorsqu'elles se font la guerre? Elles arment des armées, c'est pour ça qu'on les appelle des armées, et les armées se battent, un peu comme les équipes dans le sport se battent, représentant leur nation, et on dit la France a vaincu ceci, telle nation a vaincu la France, etc. Pourquoi? Parce que l'armée représente la nation pour laquelle elle se bat. Quand deux nations se font la guerre, elles se battent par l'intermédiaire d'armées qui représentent la totalité des peuples qui sont en guerre. Dans les lectures de Matine, c'est justement l'histoire de David et Goliath. Et ça tombe justement bien. C'est l'histoire de David et Goliath qui nous montre une façon encore plus précise de se battre, c'est-à-dire que deux armées, en tout cas dans l'Antiquité, deux armées pouvaient choisir parmi elles chacune un homme fort, un héros, et les faire se battre de telle sorte que celui qui battrait l'autre entraînerait le triomphe ou la défaite de l'armée qu'il représente. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras, dit notre Seigneur à Saint-Pierre. Ces hommes qui ont été pris par les filets de Saint-Pierre, c'est-à-dire par la prédication de l'Évangile, ce sont les héros de Dieu qui sont appelés à se combattre contre les héros du monde. Alors, quels sont les héros du monde? Les héros de Dieu, vous avez compris, ce sont les chrétiens. Et quels sont les héros du monde? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas telle ou telle figure marquante du monde, tel ou tel blasphémateur, tel ou tel homme politique persécuteur, tel ou tel philosophe blasphémateur. Ce n'est pas ça. Ce ne sont pas ça, les héros du monde. Les héros du monde, vous allez voir, c'est à la fois vous allez voir, c'est à la fois rassurant et terrifiant. Les héros du monde nous les avons face à nous, et c'est la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à nous battre, mais contre les puissances répandues dans les lieux célestes, dit saint Paul. Alors, ça fait référence aux démons, bien entendu, au triple ennemi, le monde et la chair, bien entendu, mais nous savons que le démon ne peut rien sans la volonté de Dieu, sans la permission de Dieu. Le monde n'est que, à strictement parler, une réalité passive, c'est-à-dire c'est le théâtre de l'amour propre, de la volonté propre. Quant à la chair, effectivement, c'est elle qui comporte en elle-même, en tant que racine, le vieil homme, il comporte en racine les héros que présente le monde, le monde mondain, pour être combattu par nous, pour qu'ils triomphent sur nous, pour que nous triomphons sur eux. Le Goliath que, en tant que David, nous devons combattre, c'est la triple concupiscence. Les enfants de Dieu ont donc un rôle cosmologique, si l'on peut dire, subtil, dans le sens où, en se battant contre les héros du monde, ils provoquent la défaite du monde dans sa globalité. Il y aurait bien des choses à dire ici, mais évidemment, il nous faut être très concis, parce que ce n'est qu'un sermon. Mais il y aurait bien des choses à dire là-dessus. Enfin, en tout cas, j'en dirai l'essentiel pour que vous puissiez bien comprendre, et c'est une vérité très méconnue, mes très chers frères, c'est une vérité méconnue. Vous voyez, tout ceci vient du fait d'envisager la vie chrétienne, non pas comme la petite affaire de notre salut que nous menons selon notre petit train personnel, mais la grande affaire de la glorification du nom de Dieu par nous qui avons été faits enfants de Dieu. Que nul ne dise, j'ai demandé à personne d'être fait enfant de Dieu. C'est la plus grande des grâces que d'être fait enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce vrai? Est-ce que vous êtes baptisés? Oui, c'est vrai. Donc, vous êtes appelés à combattre contre les héros du monde, puisque vous êtes fait héros de Dieu. Les enfants de Dieu combattent contre le monde. Mais attention, non pas, comme on dit, pour faire de ce monde un lieu meilleur, doing this world a better place, comme on dit en américain, c'est-à-dire pour que le monde soit meilleur, plus agréable, avec moins de tensions, etc. Non, les chrétiens si l'on peut dire, les chrétiens sont contrefiches éperdument. Ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait dire, mais ce n'est pas du tout le but des chrétiens, faire la guerre afin que la société soit enfin pacifiée. Mais ça, c'est le but du libéralisme. Ce n'est pas ça. Les chrétiens sont en guerre constante. Alors, ce n'est pas ici, on ne va pas faire un cours de politologie chrétienne, mais les chrétiens ne sont pas en guerre contre le monde afin que le monde soit gentil, que le monde arrête de les persécuter, que le monde... Pendant 300 ans, les chrétiens, dans l'Église primitive, pendant 300 ans, les chrétiens se sont battus contre le monde, non pas comme ils auraient pu le faire en faisant un coup d'État, en faisant que les légions chrétiennes, les légions qui étaient essentiellement, toutes les légions qui étaient composées de chrétiens, montent à Rome et fassent un coup d'État et mettent le pape sur le trône de l'empereur, etc., et puis pour faire cesser les persécutions, les chrétiens se sont battus contre le monde en triomphant contre la tentation d'abjurer le christianisme. Le héros de l'Empire romain païen, mais c'est pas en tant qu'empire, mais en tant que paganisme, en tant que monde, le héros du monde qui se présentait à eux et dont la défaite entraînerait la défaite du monde, n'était pas l'empereur, n'était pas les magistrats, etc. C'était l'apostasie, la tentation d'apostasie. Les chrétiens auraient pu mettre un terme au monde, aux persécutions en faisant un coup d'État, ils ne l'ont pas fait alors qu'ils le pouvaient. Les anciens historiens de l'Église ont toujours montré que les chrétiens se sont toujours désintéressés de leur propre force numérique et politique pour se concentrer sur le combat pour la gloire de Dieu, le combat contre le héros du monde. Le héros du monde, à leur époque, ça l'est toujours aujourd'hui, mais il y en a aussi d'autres, mais c'était la tentation d'apostasier. Le chrétien ne combat pas pour ne plus avoir à combattre. Le chrétien combat de génération en génération jusqu'à ce que le monde arrive à sa fin et que le jugement dernier se produise. Il y aurait bien des choses à dire, mais j'avance un petit peu. Le chrétien se combat, le combat, oui, ce combat, c'est-à-dire combat le monde, et vous avez compris que les héros du monde étaient en lui-même, pour soumettre le monde aux lois de Dieu. Et cela a un effet direct sur la société, puisque lorsque, après 300 ans de combat contre les héros du monde, présentés par la tentation de brûler le grain d'encens, les chrétiens ont triomphé comment? Lorsque Dieu a touché le cœur de ce général qui est devenu empereur, Constantin, et qui a lui-même organisé la société chrétienne. Les chrétiens n'ont rien fait pour que la société chrétienne advienne. Ils ont vécu en tant que société chrétienne entre eux, en tant que vrais chrétiens, et ils ont triomphé du monde en triomphant du héros du monde qui se présentait à eux dans ce combat singulier, de ce combat entre David et Goliath. Les chrétiens, en combattant contre la triple concupiscence, qui est véritablement le héros, le représentant du monde en eux, vise, mes très chers frères, rien moins que, et nous le dirons juste en passant, qu'à pouvoir vivre le monde étant réglé, le cours du monde étant réglé par Dieu, vivre en goûtant une piété tranquille. C'est l'oraison d'aujourd'hui. Nous n'examinerons pas l'oraison aujourd'hui, nous vous signalons simplement cette expression, piété tranquille. Il n'y a aucune dispo, il n'y a aucune il n'y a aucune aucun aspect évolutif évolutionniste dans le combat du chrétien contre le monde. Le chrétien ne combat pas le monde afin que le monde soit un lieu meilleur. Le chrétien combat le monde en combattant le héros que le monde lui présente, c'est-à-dire le Goliath intérieur, la triple concupiscence. Et lorsque le chrétien triomphe de cette triple concupiscence, et lorsque la société chrétienne, c'est-à-dire la société des chrétiens, triomphe dans son ensemble de cette triple concupiscence, alors il se trouve que le monde, il trouve un monde pacifié. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire arriver à nos buts politiques, il faudrait être des saints, etc. Si vous croyez ça, vous n'avez strictement rien compris. À strictement parler, on pourrait répondre oui, mais si vous mettez la charrue avant les bœufs, vous dites, pour avoir tout le reste, alors ça voudrait dire qu'il d'abord il faut commencer par chercher le royaume de Dieu et sa justice. Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut le dire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu vous garantit que le reste sera donné. Combattez contre Goliath, et vous verrez que les Philistins vous seront soumis. Il ne faut pas dire, pour que les Philistins nous soient soumis et que nous triomphions d'eux, il faut donc commencer par régler le cas de Goliath. Non! Combattre contre Goliath, c'est obtenir la soumission des Philistins et la défaite des Philistins. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si vous ne comprenez pas, c'est que vous avez un problème spirituel. Que Dieu vous éclaire, mes très chers frères, et continuez à réfléchir, à méditer, et faites-vous aider. Si vous ne comprenez pas, c'est que il y a un problème avec la concupiscence dans votre cœur, dans votre intelligence. Que chacun, nous dit un commentateur, que chacun repose tranquille sous sa vigne et son figuier, c'est cela la piété tranquille que nous demandons à Dieu. Nous demandons à Dieu, non pas que le monde nous soit soumis, mais, ou même favorable, nous demandons à pouvoir vivre en paix sous notre vigne, sous notre figuier. Revenons maintenant au combat. Nous ne parlons plus maintenant des résultats du combat, qui sont des résultats merveilleux que Dieu nous garantit. Concentrons-nous plutôt sur le combat. Nous avons dit, vous vous souvenez, car il faut, c'est ce que nous exposons est difficile à exposer, alors je rappelle toujours le début. Nous avons vu que la vie chrétienne, l'enjeu de la vie chrétienne n'est pas tellement notre salut personnel que la glorification du nom de Dieu par nous. De telle sorte que, ayant glorifié Dieu, nous méritions d'être sauvés. Puisque le salut n'est autre que la récompense d'une vie qui a glorifié Dieu. Il se trouve, mes très chers frères, que le combat, vous l'avez compris, le combat a lieu dans l'âme du chrétien. Et ce n'est pas une façon de se désister du grand combat politique, etc. Je ne jette pas la pierre à ceux qui font le combat politique, je dis que ce n'est pas la perspective qui est la nôtre. Le combat, mes très chers frères, a lieu dans l'âme. Parce que Salomon dit que celui qui triomphe de lui-même a plus de gloire que celui qui s'est emparé d'une ville, du général qui avec une échelle s'est emparé d'une ville en grimpant sur la muraille, en triomphant d'une ville. Celui qui triomphe de lui-même est plus valeureux que ce général, qui pourtant est un général rare et valeureux, puisque tout le monde ne peut pas s'emparer de ville aussi facilement que cela. Le combat a lieu dans l'âme. Comprenez, mes très chers frères, quelle est la grandeur au sens détendu de votre âme. Ce n'est pas que c'est une chose qui est plus ou moins grande, plus ou moins petite, c'est que votre âme, c'est la racine, l'âme au sens du vieil homme, hein, enfin, c'est l'âme au sens du règne, là où règne là, malheureusement le vieil homme. Le vieil homme, qui est la racine du monde mondain, règne sur votre âme, de telle sorte que triompher du vieil homme sur l'âme entraîne comme conséquence nécessaire le triomphe de Dieu sur le monde mondain. Réfléchissez bien et vous verrez que votre âme est plus grande que l'univers tout entier. C'est un lieu commun de la théologie. Le combat a lieu dans l'âme. Et c'est par la négligence des chrétiens que le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations, dit l'apôtre. Et non quand les hommes mondains, comme nous l'avons dit, quand les hommes mondains légifèrent contre Dieu ou en dépit de sa loi. Donc il y a toutes sortes de gens qui se prétendent chrétiens, qui se croient chrétiens, et qui organisent toutes sortes de manifestations contre la société moderne, etc. Et on comprend qu'ils le fassent, bien entendu, on comprend tout à fait qu'ils le fassent. Mais ce sont des gens qui se croient chrétiens et qui vivent selon les fondamentaux de cette société. Je n'entrerai pas dans les détails, parce que ce n'est pas le moment, mais en réalité, tous ces militants, et ça se voit toujours plus aujourd'hui, en fait, ce sont Ce sont des, en fait, ils sont anti-modernes parce que ultra-modernes. Regardez-les bien. Bon, je vais quand même donner un exemple. J'ai vu récemment, on m'a montré récemment une image, parce que c'est aujourd'hui, apparemment, c'est la Coupe du Monde de football actuellement. Je ne sais pas exactement à quel niveau, mais enfin bon, apparemment, toutes les équipes jouent les unes contre les autres. Donc, c'est très bien. On a montré une image, soi-disant drôle, de l'équipe chrétienne, l'équipe catholique, l'équipe de la France catholique. Alors, ça, de la vraie équipe de la France catholique. Alors, on voyait Charles Martel, Saint Louis, je ne sais plus trop quel héros encore de la chrétienté. Bon, et puis on voyait Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Jeanne d'Arc, évidemment, l'incontournable, etc. Et on disait, voilà, c'est l'équipe de France catholique qui est présentée. Bon, je veux bien, bon, ça doit être drôle, bon, rions un coup. Bon, ça doit être drôle quelque part. En réalité, mes très chers frères, quel est le symptôme qui est là-dedans? Alors, on va dire, voilà, alors que dans le football ou dans la plupart des sports, disons, qui nécessitent quand même une certaine force physique, il se trouve que le monde mondain n'a pas encore intégré la mixité des genres, que déjà les catholiques, entre guillemets, conçoivent le plus naturellement du monde que l'équipe de France, spirituelle, bien entendu, mais soit composée d'hommes et de femmes. Alors vous allez dire, mais ce sont des saints. Oui, mais c'est une équipe. Alors, si on veut faire une analogie, mettez que des champions hommes, des saints, alors mettez pas simplement des, si vous voulez, des guerriers, etc. Mettez bon, des saints, des saints prêtres, mais c'est le saint curé d'Ars, qui etc., si vous voulez. Mais établissez quelque chose qui ait une correspondance. Les mondains, ou encore dans les équipes, dans la composition des équipes de football, les mondains qui sont pervertis de gender et compagnie, sont encore ont encore le bon sens que les catholiques militants, etc., n'ont même plus. Vous voyez, mes très chers frères, combien il est important de combattre contre le héros du monde dans notre âme, et de lui faire une guerre sans merci selon les critères de la tradition et non pas de la réaction, mes très chers frères. Sinon, nous allons combattre tel ou tel aspect du monde et nous pourrions très bien nous manifester, nous avérer beaucoup plus mondains que les mondains mêmes, ayant encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne les dirai pas aujourd'hui. C'est une vérité méconnue, mes très chers frères, que le héros du monde est dans l'âme, et que l'âme est la lisse, le terrain de combat entre le chrétien, champion de Dieu, et la triple concupiscence, le vieil homme, champion du monde mondain. Pour combattre contre le champion du monde dans la lisse de notre cœur, nous disons ceci à Dieu, et c'est dans l'offertoire. Illumina oculos meus, illuminez mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « j'ai prévalu contre lui ». Illuminez mes yeux. La lumière, mes très chers frères, fait défaut à nos yeux spirituels, lorsque, premièrement, la doctrine, ensuite la charité, et enfin la vérité, la volonté font défaut. Lorsque nous n'avons pas la doctrine, parce que nous sommes des chrétiens imaginaires, fantasques, qui avons toutes sortes de doctrines, sauf la doctrine catholique, nous sommes dans les ténèbres. Lorsque nous n'avons pas la charité, nous avons peut-être la doctrine, nous sommes peut-être vraiment ce qu'il faut, mais nous n'avons pas la charité, nous pourrions être des chrétiens dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens dans le désordre qui font n'importe quoi, les chrétiens dans l'ordre mais qui n'ont pas la charité sont dans les ténèbres. À quoi leur sert-il d'être dans l'ordre? Alors, il faut qu'ils soient dans l'ordre, mais à quoi leur sert-il d'être dans l'ordre s'ils n'ont pas la charité? Nous sommes dans les ténèbres si nous n'avons pas la charité. Et enfin, évidemment, si nous avons la charité, mais qu'elle est tellement faible, qu'elle est velléitaire, si nous n'avons pas la volonté, nous sommes encore dans les ténèbres, quoique nous ayons la doctrine et la charité, une petite amorce de charité. Il faut que la charité soit puissante, que la charité soit généreuse, et la charité soit forte, qu'elle soit prévalente, qu'elle soit prédominante dans notre cœur. Il ne faut pas qu'elle existe simplement, même si c'est bien qu'elle existe. Quand elle n'est qu'existante et faible, c'est déjà bien, je ne dis pas le contraire. Mais il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit forte. Lorsque on allume, la ménagère allume un feu, sous la casserole pour faire chauffer la soupe, et elle ne dit pas, ah ben, il suffit qu'il y ait le feu, il y a quand même le feu c'est le feu, et met une petite allumette dessous, ça... oui mais il faut un bon feu pour faire bouillir la marmite, si l'on peut dire. Et on dit l'essentiel c'est la charité, et c'est vrai, c'est notre Père qui le dit, l'essentiel c'est la charité, mais la charité, on doit souffler dessus, avec le souffle du Saint-Esprit, afin qu'elle devienne un grand feu. Si on se console en disant sous la marmite, il y a quand même un feu, c'est un tout petit feu, mais c'est le feu, oui, bon, on ne mange jamais une soupe préparée. Il faut une soupe chaude. Il faut qu'il y ait un bon feu pour que le plat puisse être préparé. Il faut qu'il y ait une grande charité pour que la guerre puisse être menée. Si David était venu et avait dit devant Goliath, ah, oh, mais voilà, je suis sacré déjà, j'ai reçu l'onction, c'est déjà ça, et puis j'ai déjà vaincu un ours et un lion, c'est déjà ça. Oui, mais c'est très bien, Deo gratias, mais maintenant vous avez un géant à combattre. Oui, mais c'est déjà bien. Je vais prendre des pierres, bon, mais pour l'instant, je n'ai que des boulettes de papier, mais c'est déjà, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte sous un certain rapport, mais vous vous êtes proposé comme héros à Saül, et vous allez remplissez votre gypsière de boulettes de papier en disant c'est l'intention qui compte. L'intention, c'est de faire gagner votre camp. Donc, l'intention qui compte, on le dira de vous, si vous étant battu avec Goliath, vous avez, et par impossible, vous avez été vaincu, on a dit, bon, ben, c'est l'intention qui comptait, il était plein de bonne volonté, ben, il a perdu, bon, mais ben, c'est l'intention qui comptait. D'autres vous le diront de vous, mais on ne peut pas aller au combat en disant, c'est l'intention qui compte. Attendez, c'est pas l'intention, c'est les faits qui comptent. Vous allez dire, oui, mais David était prédestiné à gagner, etc. Oui, et le chrétien, il dit, alors, j'aimerais bien combattre, j'aimerais bien me sanctifier, et c'est l'intention qui compte, Dieu voit le cœur. Dieu voit très bien votre cœur, c'est un cœur de paresseux. C'est l'intention qui compte. Lorsque vous arriverez au ciel et que vous n'aurez rien fait qui ait jamais été remarqué, sinon votre devoir d'État, Dieu dira, c'est l'intention qui a compté. Vous avez voulu donner un verre d'eau fraîche au plus petit d'entre les chrétiens et il se trouve que quelqu'un d'autre l'a donné à votre place et que vous étiez même privé d'eau. Et Dieu vous dira, c'est l'intention qui a compté. Et je te récompense d'une récompense grandiose parce que tu as eu cette intention-là. L'intention est comptée après la bataille, pas avant. Donc au lieu de remplir vos poches de boulettes de papier et d'aller en sifflotant face à ce Goliath que vous aimez et avec lequel vous buvez des bières tous les soirs, allez plutôt avec la force que Dieu vous donne. Vous qui avez déjà fait l'expérience de triompher des lions et de triompher des ours, David à Saül, au roi Saül, j'ai triomphé de l'ours et du lion, etc. Et le Seigneur était avec moi. Vous allez maintenant remplir votre gypsière de pierres, et avec une de ces pierres, vous allez défoncer le crâne de ce Goliath intérieur, que vous haïssez et que vous méprisez comme lui-même méprise le peuple de Dieu. Car David n'a pas dit « Oh, c'est un géant, après tout c'est un homme, il faut savoir dialoguer avec lui ». Il a dit « Quel est cet incirconcis qui ose défier ainsi le peuple du Dieu d'Israël ?» À tel point même que ses frères étaient quelque peu irrités de voir cette force qu'il y avait dans leurs frères, qu'ils confondaient, jusqu'à preuve du contraire, avec de la témérité et de l'arrogance. Mais au contraire, David était embrasé d'amour pour Dieu. Et d'une seule pierre, alors qu'il en avait pris cinq, d'une seule pierre, il a terrassé le géant, et avec l'épée du géant, il lui a coupé la tête. D'ailleurs, cette épée réapparaîtra par la suite dans son histoire, et nous verrons que ça sera l'épée de Saül, l'épée de David, sachant donc que David maniait cette épée du géant Goliath plus tard, lorsqu'il fuyait devant Saül. Donc, voyez, mes très chers frères, le chrétien est, dans la lice de son cœur, le héros de rien moins que l'univers chrétien face au héros du monde qui est ce Goliath intérieur qui est la triple concupiscence. Cette hydre à trois têtes qui est la triple concupiscence. Héros du monde mondain, héros du diable, héros du monde mondain et héros d'elle-même, représentatrice d'elle-même puisqu'elle est la racine du monde. C'est pour cela, mes très chers frères, que nous devons, si nous disons cela, c'est que nous devons haïr la chair, le vieil homme, comme notre ennemi dont nous avons hérité par l'adoption divine. Lorsque nous étions dans le péché, sous l'esclavage du démon, le démon, la chair, était nos maîtres, était nos tyrans. nous les aimions parce que ce sont des tyrans qui savent se faire aimer. Nous les aimions, nous les détestions un petit peu par certains côtés, par certains excès pénibles qu'ils nous faisaient. Tout le monde déteste sa bêtise lorsque la police vient lui mettre une contravention, bien entendu. Tout le monde a horreur de l'ivresse dans la mesure où on a la gendarmerie vous contrôle et vous prouve que vous avez 5 grammes d'alcool dans le corps alors que c'est un petit peu abusif. Bon, évidemment, mais en réalité, mis à part ça, on l'aime. Or, nous, par le baptême, nous avons été faits enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Tout ce qui est à Dieu est à nous. Toutes ses richesses sont à nous. Tous ses ennemis sont à nous. Lorsque un pauvre homme est adopté par un prince étranger et qu'il est déclaré son fils, qu'il est intronisé, qu'il est rendu prince par ce prince, la première chose qu'il commence à faire, bon, c'est un peu le tour du propriétaire, d'accord, si vous voulez, mais c'est à se dire, bon, maintenant, quels sont les ennemis de mon père adoptif? Parce que il faut que je les connaisse, parce qu'ils vont certainement m'attaquer, il faut que je les connaisse, car il faut que je leur fasse la guerre pour montrer ma reconnaissance envers mon père. Et effectivement, c'est cela qui va se passer. Les ennemis, les gens ou des royaumes qui autrefois étaient quasiment inconnus de cet homme, vont devenir ses ennemis personnels dans la mesure où il est devenu prince héritier de ce roi si bon qu'il a adopté pour son fils. C'est pour cela, mes très chers frères, que dans l'offertoire, il est dit « Necundo dicat inimicus meus » de peur que mon ennemi ne dise « Prevalui adversus eum » « Je l'ai vaincu, j'ai prévalu contre lui ». Combien de fois nous laissons-nous vaincre par la chair, par le monde ou par le diable, en nous disant « Ah ben voilà, encore une fois, je me suis laissé tromper par le démon, je suis trop bête, je suis vraiment… » Oui, bon, d'accord, c'est très bien, mais c'est pas ça qui fait une contrition. Hein. La contrition, c'est « Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable. » On n'est pas « Mon Dieu, j'ai un extrême regret de m'être fait pincer. Mon Dieu, j'ai un extrême regret d'avoir à subir maintenant les conséquences de ma bêtise. » Ça ne fait même pas partie de l'acte de contrition. L'acte de contrition, c'est « Mon Dieu, j'ai un extrême de regret de vous avoir offensé, vous seul, contre vous seul, j'ai péché. » Si nous sommes négligents envers les ennemis de notre Père Céleste, c'est que nous sommes des traîtres et nous sommes les ennemis de ses ennemis. C'est pour cela que nous disons « mon ennemi », non pas l'ennemi tellement de mon salut à moi, avec lequel je compose parfois « bon, c'est vrai qu'il ne faut pas être mondain, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder la télévision, qu'il ne faut pas traîner sur l'Internet, etc. » C'est vrai, mais bon, de temps en temps, je m'accorde une petite dispense, et puis en même temps, bon, je tombe, mais bon, grosso modo, non. Si c'est ça, si c'est mon ennemi à moi, d'une certaine manière, je fais la trêve avec lui. Si c'est l'ennemi de mon père, je ne vais pas faire la trêve avec lui dans le dos de mon père. Parce que sinon, ça s'appelle trahir. Vous voyez, il faut plutôt être comme Jonathan, le fils de Jonathas, le fils de Saül, qui, sachant que son père, donc son père dont il était héritier, était en conflit avec les Philistins, alors que son père était en train de faire des stratégies avec son... À juste titre, hein, étudier la stratégie avec ses généraux un peu plus loin, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'était la lecture de cette semaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec son écuyer, il a gravi la montagne, et il est allé à ce poste de Philistins, et il les a massacrés de telle sorte que de loin, son père, voyant ce remue-ménage, s'est mis en marche avec son armée, et a infligé une grande défaite aux Philistins, dont Jonathan a été l'avant-garde et l'avant-coureur. Alors, évidemment, nous ne pouvons pas faire la même chose avec Dieu notre Père, puisque... Mais enfin, il y a quelque chose comme cela. Nous devons être tellement loin de composer avec les ennemis de notre Père que nous devons les attaquer à tout moment, à temps et à contre-temps, si l'on peut dire. Alors, attention, ne faites pas n'importe quoi, mais disons, vous voyez, les ennemis intérieurs. L'ennemi intérieur, on ne doit pas dire, bon, ben, aujourd'hui, je fais la paix avec le Goliath intérieur, on va boire une bière ensemble, et puis demain, on va se battre. C'est pas comme ça que ça marche, mes très chers frères. Parce que le jour où, imaginez que Saül ait vu David et Goliath au PMU local en train de boire en disant, bon, ben, on se battra demain, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, ah bon, ben, alors le combat est repoussé à demain. Non, il va dire, David trahit. David trahit. J'ai été prêt à lui prêter mon armure. Il m'a dit que ça allait, qu'il allait avec la force du Seigneur. Et qu'est-ce que je vois maintenant? Il est en train de boire des bières avec Goliath. C'est un traître. Alors David aurait pu lui dire non, attendez, c'est parce qu'on a reporté à demain pour des questions de météorologie, etc. Non, il compose avec son ennemi une fois. C'est donc avec mon ennemi une fois. Donc c'est que c'est mon ennemi. C'est pour cela que nous disons Nequando dicat inimicus meus, de peur que mon ennemi, c'est-à-dire votre ennemi, mon père, c'est notre Père céleste, votre ennemi, de peur que votre ennemi ne dise je l'ai vaincu. Et c'est pour cela, et c'est là où, si nous concevons la vie chrétienne comme la glorification du nom de Dieu, et non pas simplement le fait de travailler plus ou moins mollement à notre salut, nous allons voir que si notre ennemi dit je l'ai vaincu, ça signifie que nous avons fait blasphémer le nom de Dieu par les nations, et que nous sommes indignes d'être appelés les fils de Dieu. Notre nonchalance, mes très chers frères, lorsque le chrétien se laisse vaincre par sa nonchalance, par son manque de vigilance, il apporte comme un démenti au triomphe du calvaire. Le diable a été, la tête du diable a été écrasée par le Christ au calvaire, le diable a été enchaîné et jeté dans le puits, par le Fils éternel de Dieu, et lorsque je me laisse aller au péché, et que je me laisse aller à la composition avec le monde, c'est comme si j'apportais un démenti, c'est comme si à cet ennemi, j'allais lui apporter des oranges en prison, c'est comme si à celui que mon père avait fait vaincre par son Fils unique, notre Seigneur, écraser la tête au calvaire, déchirer l'acte de condamnation qui nous condamnait, etc., et que j'allais lui apporter de l'eau en disant, ben là vous avez été vaincu, mais je vous apporte un peu d'eau. Quelle trahison, mes très chers frères, quelle trahison. Nous sommes des traîtres si nous, en tant que héros de Dieu, dans la lice de notre cœur, nous nous laissons aller à composer avec le Goliath intérieur. Et il y a encore pire, mes très chers frères, dans le graduel, car les textes se correspondent toujours dans les messes, dans le graduel, que disons-nous? Seigneur, pardonnez-nous nos péchés, pour que les nations n'aient pas lieu de dire, et quando dicant gentes, ubi es Deus eorum. Il arrive que nous péchions, mes très chers frères, mais alors il ne faut pas se laisser aller au désespoir, et il faut demander pardon à Dieu pour nos péchés, de peur que les gentils ne disent « Où est leur Dieu ?» Lorsque le nom de Dieu a été blasphémé à cause de nous, mes très chers frères, il faut que nous demandions pardon très sincèrement à Dieu, afin que le nom de Dieu cesse d'être blasphémé par nos ennemis. « Ubi es Deus eorum ?» Où est leur Dieu ? Dieu triomphe par notre constance, mes très chers frères, car c'est celle-ci qui défait le monde. Elle écrase, c'est elle qui lui écrase la tête, c'est elle qui, dans le Christ, c'est elle qui met de l'ordre dans son chaos et qui met fin à sa révolte, mes très chers frères, qui l'amène captif à l'obéissance du Christ. Ce n'est pas telle ou telle victoire. Ah ben, il y a 2 semaines, je n'ai pas péché. Ben, c'est très bien, et là, dans la minute qui vient de... Ah oui, ben attendez, mais c'est pas... Mes très chers frères, c'est notre constance. C'est pour cela que notre Seigneur dit dans l'Évangile, dans un évangile, il dit c'est par votre constance que vous sauverez vos âmes. Et par conséquent que vous glorifierez le nom de Dieu. Pour mener à bien le combat intérieur, le combat microcosmique, si l'on pourrait dire avec un peu de pédanterie, pour mener à bien le combat intérieur, ce combat dans la lice du cœur, il faut embrasser, mes très chers frères, la volonté divine et la faire sienne. Et c'est une déclaration de guerre faite à notre propre concupiscence. Et c'est pour ça que nous arrivons à notre troisième point. Et dans la secrète, il est dit ceci. La secrète est la prière que le prêtre dit à voix basse. C'est une prière qui est toujours en lien avec le saint sacrifice de la messe. Donc c'est une prière très spéciale. Mais aujourd'hui, que disons-nous à Dieu, nous qui sommes des héros malheureusement si faibles face à ce Goliath qui blasphème le nom de Dieu et que nous devons combattre et vaincre en nous? Que disons-nous à Dieu? Accueillant nos offrandes, rendez-nous votre faveur, Seigneur, et malgré nos résistances, daignez par bonté ramener vers vous nos volontés. La traduction que j'ai sous les yeux est extrêmement faible. Et ad nostra messiam rebelles compelle co propitius voluntates. Qu'est-ce que ça signifie? Et vers vous, et à te, nostras essiam rebelles compelle propitius voluntates. Et vers vous, propitius par bonté, bienveillant, avec bienveillance, vous étant bienveillant, nostras essiam rebelles voluntates compelle. Même compeller, c'est-à-dire forcer, même nos volontés rebelles, même notre volonté rebelle. C'est mis au pluriel pour montrer la puissance de la volonté. Que nous disons-nous à Dieu? Forcez-nous de vous obéir. Faites-nous violence afin que nous puissions nous faire violence. Sortez-nous de ce schéma pélagien, molino-pélagien, qui consiste à dire il faut que chacun trouve au fond de lui-même la force de trouver la raison, etc. Faites-nous violence. Dieu ne force jamais personne, la liberté humaine est une chose trop précieuse, trop sacrée pour Dieu, Dieu s'incline devant la volonté humaine. Eh bien nous disons à Dieu, forcez-nous, violentez notre volonté. Forcez-nous, compellez. D'ailleurs, il est dit, il n'y a pas si longtemps, on lisait l'expression compellez intrare, force-les d'entrer, forcez notre volonté. Nous sommes si méchants que nous voudrions prendre la lance et l'épée de Goliath pour aller combattre le peuple de Dieu. Nous sommes si méchants, mes très chers frères, si mauvais, si corrompus, nous sommes jusqu'à un certain point si identifiés à notre vieil homme, que si Dieu ne violentait pas notre volonté, nous serions incapables de vouloir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est sa gloire. Nous sommes tellement orgueilleux que nous accusons Dieu d'orgueil lorsque l'Écriture nous dit que Dieu est jaloux de sa propre gloire. Ah bon, mais Dieu est orgueilleux, Dieu n'est pas très chrétien, alors il n'est pas très humble. Dieu, c'est Dieu, et nous sommes des créatures. Combien de fois ai-je entendu ce blasphème dans la bouche de chrétiens faibles, d'accord? Mais mes très chers frères, Dieu est Dieu, et Dieu qui est Dieu, c'est notre Père. Ses ennemis sont nôtres, et ses ennemis, nous les défaisons dans la lice du champ de notre cœur. Malheureusement, le héros du camp adverse est notre meilleur ennemi, meilleur ami, c'est notre double, c'est le moi, le faux moi, c'est le vieil homme, la chair, la triple concupiscence associée à notre conscience personnelle. Et ad te nostra sessiam rebelles compele propitius voluntates. Et forcer en nous même notre volonté rebelle. Nous ne devons pas demander, mes très chers frères, la cessation des tribulations extérieures, mais l'ordonnation de notre propre volonté à Dieu. C'est pour ça que nous disons ad te. Vous vous souvenez, c'est les premiers mots de l'année, du premier introït de l'année liturgique. Ad te domine. Vers vous, Seigneur. Et nous sommes ici dans les débuts de la deuxième partie de l'année liturgique. Nous disons encore la même chose à Dieu. Ad te. Vers vous. Redressez-nous. Réorientez-nous. Faites-nous pour cela violence. Nous sommes une barre de fer tordue dans le mauvais sens, tordez-nous complètement dans l'autre sens, afin que nous retrouvions cette droiture, cette rectitude originelle, que nous avons d'ailleurs reçue virtuellement par le baptême. Nous devons nous faire, mes très chers frères, violence à nous-mêmes, parce que la grande affaire de la vie chrétienne n'est pas de travailler mollement à notre salut, mais de vivre à la gloire de Dieu, afin d'être sauvés. Nous devons demander à Dieu, compelle. Vous voyez, vous pouvez dire, forcez-moi, Seigneur. Vous pouvez vous inspirer, vous devez vous inspirer de ces, prendre votre inspiration de ces prières, afin qu'elles puissent être les vôtres et que vous puissiez obtenir ce que Dieu veut vous donner. Forcez, compelle, qu'est-ce que ça signifie? Forcez, obligez, contraignez. On n'est pas là du tout dans un dieu moliniste qui vénère à deux genoux la liberté humaine. Hein. On est là face à un dieu, certes, c'est nous qui lui demandons, c'est vrai. Mais d'une certaine manière, si nous ne lui demandons pas, il le fait tout seul. Alors vous allez dire, on va le laisser faire. Ne soyez pas insolents. Il faut lui demander, forcer notre volonté rebelle, mes très chers frères, car si nous ne lui demandons pas, il se pourrait très bien que Dieu nous laisse faire exactement ce que nous voulons. Et alors, ça voudrait dire que Dieu nous hait, que Dieu n'a aucun amour pour nous et qu'il ne nous a jamais aimés en son Fils, si Dieu nous laisse faire tout ce que nous voulons. C'est pour cela que pour que Dieu ne nous laisse pas faire tout ce que nous voulons, nous devons nous faire violence à nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas nous faire violence à nous-mêmes si Dieu ne nous fait violence à nous-mêmes. Cette douce violence, bien entendu, il ne s'agit pas d'une violence d'un barbare, d'un tyran, mais cette douce violence, comme dit Bossuet, cette douce violence qui est une vraie violence et qui nous ramène à notre devoir. Nous sommes rebelles. Nous sommes rebelles. C'est le même mot en français et en latin. Essiam, nostram essiam rebelles voluntates. Rebelles. Nous sommes hostiles à notre propre salut. Souvenez ce que dit ce père de l'Église. Lorsque Dieu s'approche de nous pour nous guérir, nous hurlons de terreur parce que nous nous imaginons qu'il va nous torturer. Pourquoi? Parce qu'il va nous faire changer. Il va nous faire perdre notre courbure. Il va nous restituer la droiture. Et nous, il nous semble que Dieu est un méchant. La force centrifuge en nous, mes très chers frères, la force de notre moi, la force de notre vieil homme, est telle que Dieu doit exercer une contrainte sur nous, une contrainte efficace. Et c'est pour cela, mes très chers frères, que nous devons crier à Dieu en lui disant « Seigneur, n'exercez pas sur moi une contrainte passagère. Ne me donnez pas simplement une velléité. Ne me donnez pas simplement quelques consolations spirituelles qui font que, à un certain moment, entendant une belle chorale de grégorien, surtout avec des belles choristes, etc., je sens mon cœur s'élever vers la religion, j'ai vu une belle vidéo de musique de chant paléo-chrétien et je me sens tout ravigoré. Nous devons fuir ces choses-là comme des choses terribles en disant, Seigneur, surtout, ne me donnez pas de grâces actuelles. Donnez-moi la grâce efficace. Alors vous allez dire, si vous utilisez bien les grâces actuelles, bien entendu, alors dites aussi, Seigneur, délivre-moi de la mauvaise volonté, bien entendu. Mais Seigneur, ne me donnez rien qui ne soit, qui n'ait pour but et qui n'ait pour effet d'exercer sur moi une contrainte telle que je me retourne vers vous réellement. Ne permettez pas que je sois touché par la religion. Permettez que la religion me transforme. Ne permettez pas que j'aie dans le cœur quelques sentiments sympathiques vis-à-vis de tel ou tel aspect culturel du christianisme. Faites que mon cœur étant stoppé net, arrêté net dans son mouvement centrifuge, je revienne avec la même vigueur, la même violence vers vous, ad te. Ne m'abandonnez pas à moi-même, d'exercer sur moi une grâce qui soit efficace. Vous avez jeté en moi, mon Dieu, que vous avez jeté en moi du bon grain, mais arrachez les épines, enlevez les pierres, chassez les oiseaux, ameublissez la terre. Je sais que votre bon grain tombe n'importe où. Je sais que vous donnez des grâces à tout le monde, mais donnez-les-moi d'une façon efficace. Ne m'abandonnez pas à moi-même. Voilà exactement ce que signifie l'esprit de cette secrète. Forcez, contraignez, Seigneur, même nos volontés rebelles. Ne m'abandonnez pas à moi-même. Faites-moi violence tellement je suis mauvais, je suis à moi-même mon propre ennemi. Il faut crier à Dieu, mes très chers frères, contre nous-mêmes, contre la tyrannie que nous exerçons sur nous-mêmes. C'est pour cela que dans l'Épître, il est dit « Car la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu, assujettis qu'elle est à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Les années précédentes, nous avons commenté ce passage, nous le referons par la suite, nous ne ferons que passer très rapidement ici. Même les éléments inférieurs de l'homme, tout le monde aspire au triomphe de l'homme. Comme le moindre petit pâtre hébreu qui était là avec son bâton et qui faisait partie de l'armée de Saül et qui devait combattre contre les Philistins aspirait au triomphe de David sur le héros de l'armée adverse, de même la moindre chose, le moindre brin d'herbe, la moindre chose qui est le moindre grain de raisin, si j'ose dire, dans ce monde, aspire au triomphe de l'homme sur le Goliath intérieur, parce qu'il est soumis à la vanité à cause de celui qui l'utilise avec par le prisme de la triple concupiscence. Utiliser la création autrement que pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire dans le cadre de son état, usant comme n'usant pas, je vous renvoie à dimanche dernier, c'est faire une violence indigne à la création. Le corollaire de cette affirmation, mal user de la création, c'est aller contre sa raison d'être. Son corollaire, c'est que bien user la création, c'est opérer l'avènement de la rédemption. Il y a quelque chose de très mystérieux, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, il y a quelque chose de très mystérieux qui est accompli par l'homme lorsqu'il use bien des choses. Vous allez dire, c'est pas moi, pauvre petit particulier, chrétien particulier, qu'en usant bien des choses, en mangeant bien mon poulet pour la gloire de Dieu, je vais pas... Eh bien... Mystérieusement, si vous contribuez à l'avènement de la rédemption, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce ne sont pas des choses qu'on doit dire à la légère. La violence, mes très chers frères, la violence contre nous-mêmes doit être déployée non pas par nos propres forces, qui sont rebelles, mais par la force de Dieu. Nous ne devons pas dire, bon, ben maintenant je vais faire un effort. Il faut dire, Seigneur, ne m'abandonnez pas à mes pauvres forces qui sont néant, car vous avez dit vous-même que sans moi, je ne peux rien faire. Nous devons opérer par Dieu, Dieu enfin reconnu pour ce qu'il est. Et quel est-il? Qui est-il Dieu pour nous, mes très chers frères? Vous n'avez qu'à, je lirai simplement l'antienne de communion, et il n'y a même pas besoin de commenter. Qu'est-ce que Dieu est pour nous? Communion, le Seigneur est mon appui, mon refuge et mon libérateur, mon Dieu et mon secours. Nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes par nous-mêmes sans force. Avec Dieu, nous avons la force de Dieu. La violence que Dieu nous fait à notre mauvaise volonté, eh bien, dans notre bonne volonté, devient la puissance même de Dieu qui sanctifie toutes nos actions. Quand nous aurons fait l'expérience de Dieu, mes très chers frères, comme notre tout, comme notre libérateur, notre appui, notre refuge, notre secours, lorsque nous aurons réellement fait l'expérience de Dieu ainsi, mes très chers frères, alors nous comprendrons la réaction de Saint Pierre dans l'Évangile, qui voyant la pêche miraculeuse, est saisi d'épouvante et a dit « Seigneur, retirez-vous de moi car je suis un pécheur ». Ce n'est pas qu'il voulait vraiment que notre Seigneur s'en aille, mais il dit « Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est vous qui l'accomplissez en nous. Je comprends, avant c'était théorique, et puis j'avais toutes sortes d'objections, etc. Maintenant je comprends que tout ce que nous faisons, c'est vous qui l'accomplissez pour nous, comme dit l'Écriture. Je comprends que ce n'est pas moi, mais c'est vous. Je comprends que la violence que je me fais à moi-même pour la gloire de votre nom, pour glorifier votre saint nom, est le résultat de l'appropriation de la violence que vous avez faite à ma volonté rebelle. Bienheureux celui qui peut faire cette expérience, mes très chers frères. Tant que vous n'avez pas fait cette expérience, ne parlez pas de ce que vous ne savez, de ce que vous ne connaissez pas. Mais efforcez-vous de considérer Dieu, comme nous l'avons dit, comme notre appui, notre refuge, notre libérateur, notre secours, et vous verrez que la force de Dieu lui-même sera votre force, et vous comprendrez combien Saint-Pierre était épouvanté de voir que la force de Dieu est mise à son profit. Retirez-vous de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. La foi, ce sont des paroles de foi et des paroles de charité. Ce sont des paroles de renoncement, de reniement à soi-même. Certains commentateurs disent que c'est parce que Saint-Pierre avait dit ces paroles sous la motion du Saint-Esprit qu'il a pu surmonter le reniement, quelques années plus tard, le reniement qu'il devait faire à un certain moment de notre Seigneur. C'est parce qu'il avait confessé, qu'il s'était renié lui-même, qu'il avait pu recevoir cette grâce, mes très chers frères, parce qu'il avait reçu déjà cette grâce. Ne craignons point, mes très chers frères, ne craignons point. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, c'est l'intro 8. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrais-je? Le Seigneur est le rempart de ma vie, de qui aurais-je peur? Les ennemis qui me persécutaient ont été eux-mêmes affaiblis et sont tombés. Nos ennemis intérieurs, ce Goliath intérieur, la triple concupiscence, haïssons-la, mes très chers frères, et la force de Dieu, ce de Dieu qui nous a aimés et de Dieu que nous aimons, sera la nôtre en notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit.